Parentalité bienveillante, utopie ou réalité, avec Arnaud Desroux.
Bonjour, merci d'être venu. Je suis Elisabeth Martineau, rédactrice en chef du magazine L'Enfant et la Vie, qui est au stand D401. C'est nous qui accueillons Arnaud Desroux dans le cadre de cette conférence. Nous l'avions interviewé dans notre numéro 184, qui se trouve sur notre stand. C'est un magazine qui fête ses 50 ans cette année. D'ailleurs, on vous invite à un pot à 16h si vous voulez boire un coup avec nous pour fêter ses 50 ans. Ça fait 3 ans que c'est dans la région lyonnaise. Nous sommes une équipe de journalistes. On s'intéresse à l'enfance, de la grossesse jusqu'à l'adolescence. Arnaud Desroux est une personne qu'on apprécie particulièrement par sa façon de travailler et de transmettre des informations aux parents et aux professionnels. Il est formateur, conférencier. Il a été pendant 20 ans responsable petite enfance à Lambersart, dans le Nord. Il a introduit des concepts comme la bougeothèque. C'est l'invention, enfin, c'est comme une ludothèque, sauf qu'on bouge, les enfants bougent. Il a fait en sorte que tout le personnel petite enfance dans une même ville soit formé de la même manière pour créer une unité dans les équipes. Voilà, donc je ne parlerai pas plus. Il a un train à prendre vite après pour retourner dans le Nord. Un grand merci, Arnaud. Donc après, il y aura un temps d'échange, questions-réponses. On va parler de la bienveillance, utopie ou réalité dans l'éducation de nos enfants. C'est une grande question, une question de débat. Donc n'hésitez pas après à poser vos questions, à apporter des témoignages. Merci.
Merci Elisabeth. Il y a encore des places devant. Hein. C'est pas, Ville de Lyon, c'est pour vous. Hein. Ce n'est pas des sommités qu'on entend. Je suis déçu de ne pas pouvoir rester plus longtemps parce que je me suis baladé un petit peu en arrivant dans votre salon là et il y a des choses impressionnantes. Hein. Et oui, je vais devoir repartir sur l'île. C'est-à-dire que vous allez entendre l'accent du Nord quelquefois. Quand je m'emporte dans mon enthousiasme, le ch'ti qui sommeille en moi revient. Donc n'ayez pas peur. Il y en a dans la salle? Il y en a peut-être, hein, des gens du Nord. Un du tout? Ah oui, il y en a une. Un, voilà. Donc je me sens moins seul. Voilà. Vous me voyez bien là, parce que là j'ai l'impression d'être une grenouille sur une chaise. Donc, et me mettre debout tout en lisant mes notes et le PowerPoint, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, quand mon fils me voit manier un PowerPoint, il pleure. Voilà, donc je ne suis pas toujours dans une parentalité positive. Voilà, je suis venu parler de ce sujet avec un titre un peu accrocheur, hein, utopie ou réalité. Hein. Je dis souvent, actuellement, nous sommes envahis d'articles, nous sommes envahis de vidéos, de blogs, de conférences comme aujourd'hui. Il y a même des nouveaux métiers, puisque certaines personnes se font appeler coach en parentalité. Du coaching parental, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais bon. Et bien sûr, il y a plein de livres sur la parentalité positive. Positive, vous avez vu, est-ce que j'ai mis positive dans le titre? Oui, j'avais mis positive. J'ai mis bienveillante ou bien traitante. J'ai du mal avec le mot positif. Donc, être un parent négatif, c'est plus possible pour vous. Hein. Non, c'est plus possible du tout pour vous. Vous avez maintenant vraiment tous les outils nécessaires pour bien faire et pour être adéquat, comme dirait un certain Donald. Alors, pas la mine Mickey, mais Winnicott. D'accord, que vous connaissez peut-être. Donc maintenant, voilà, vous pouvez être des super-héros, des super-parents. Enfin voilà, si vous avez la recette, donnez-la-moi, hein, parce que je me questionne encore. Alors je vous rassure, parce qu'il y a peut-être là, dans la salle, il y a peut-être des gens qui sont dans cette idée de la parentalité positive, donc je ne vais pas me faire des amis tout de suite. Je ne veux certainement pas dire pendant cette conférence que la parentalité positive ou faire le choix de prendre ce chemin, parce que c'est un chemin, est un mauvais choix. Non, bien sûr. Et c'est pas une utopie d'ailleurs. Et je dis souvent, c'est les utopiques qui changent le monde. Donc si vous êtes dans ce projet avec vos enfants d'être dans une parentalité bien traitante ou positive, continuez à être dans cette utopie, parce que vous changerez les choses. Hein. Mais se mettre en marche pour être un parent bien traitant, ça demande du temps, et ça demande de se mettre en route, et ça demande d'élargir la réflexion. Et c'est un peu ça que je veux faire avec vous aujourd'hui. J'anime moi-même depuis plus de 20 ans maintenant, voire 25 ans, des ateliers parents qui s'appellent « Dessine-moi un parent ». J'ai écrit aussi des livres que vous trouvez sur la table là-bas, aux éditions Chroniques Sociales, donc dans votre région, où je parle de tout ça. Hein. Donc ça serait malvenu de dire que c'est un mauvais choix. Hein. Je dis que c'est bien d'être utopique parce que c'est les utopiques qui changent le monde. Donc vous allez changer le monde. Si vous êtes là et que vous avez des parents et que vous voulez avoir une parentalité positive ou bien traitante, vous allez certainement transformer le monde. Et c'est une bonne chose, le monde en a bien besoin. Et c'est pas moi qui disais ça. Hein. Rappelez-vous, Maria Montessori disait déjà ça. Vous connaissez ce personnage ? Maria Montessori, oui, si vous êtes là, c'est que vous connaissez. Hein. Maria Montessori disait « Si on élevait les enfants, autrement le monde changerait ». Alors, je ne sais pas si elle a vraiment dit ça comme ça, mais il y avait cette idée-là. Moi, je souhaite simplement élargir la réflexion aujourd'hui. Je pense, Elisabeth, que je vais avoir la bouche sèche dans 5 minutes. Ah, il y a de l'eau là-bas, mais pas de verre. Ça serait malvenu de boire la bouteille. Hein. Mais bon, ça doit être une montée de stress, hein. C'est normal, hein, non ? Je voulais réfléchir avec vous à tout ça parce que je trouve que la responsabilité vous est donnée à 100%. Je trouve que quand on parle de parentalité positive, c'est vraiment que vous les responsables et que vous avez toute la responsabilité. Et je trouve que même la télécimé, puisque maintenant vous avez des super nannies, qui existent encore, je pense, vous avez Ma famille a besoin d'aide, vous avez le grand frère, pour bien inciter que si les enfants sont difficiles, c'est votre faute. Ils leur disent qu'ils sont meilleurs que moi, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous regardez quelquefois ces émissions. Ça se passe souvent dans le Nord. Et quand j'exerçais comme responsable petite enfance, Super Nanny m'a appelé, enfin le secrétaire rien, pour demander si on avait des familles qui voulaient être suivies. J'ai dit, vous allez les chercher vous-même. Hein. Je ne vais certainement pas vous donner des noms de familles qui ont besoin d'aide. Donc voilà, les émissions de Télé-Cimette, je regardais encore, je pense que c'est mardi soir, qu'il y a eu une émission à la télé sur les jeunes en grande difficulté et pris en charge par l'armée. Vous avez vu ça ? Quel bonheur, hein ! Et c'est présenté comme c'est merveilleux. Sauf qu'on ne dit pas que derrière, c'est regarder le culte de l'obéissance et de l'autorité. Et ça, on ne cite jamais ce mot obéissance-autorité. On dit que c'est pour le bien-être de ses enfants. Si Elisabeth n'arrive pas tout de suite, ma langue va tomber par terre. Lave-la pas, lave-la pas. Donc, il y a plein de livres, il y a même les financeurs qui s'y mettent. Alors, je ne sais pas s'il y a des financeurs dans la salle ou des professionnels de la petite enfance ou de la parentalité, puisque même la caisse d'allocation familiale qui finance la plupart des structures petite enfance, dans les structures où vont enfants, finance maintenant des projets autour de la parentalité. On doit faire des groupes de parentalité, même dans les crèches. Alors moi, je veux bien, mais quand mes deux enfants étaient en crèche, venir dans un groupe de parentalité ou partager un temps avec mon enfant, j'aurais peut-être bien voulu, sauf que je travaillais. Donc je ne sais pas comment j'aurais trouvé du temps pour venir en plus dans un atelier en crèche. La crèche est là d'abord pour garder les enfants et bien les garder. Et ça, on va en reparler aussi, vous allez voir. Alors je dis souvent que quand on vous dit « vous êtes 100% responsable », c'est un peu faux parce que maintenant, dans notre société, vous n'êtes plus les seuls éducateurs de vos enfants. Dans le temps, quand j'étais tout jeune, donc c'est-à-dire il y a 2 jours, je partais le matin, je rentrais le midi, je mangeais avec maman ou grand-mère, je rentrais à 4h ou 5h et j'avais une tarte qui m'attendait. Ça, c'est quasiment plus la réalité de beaucoup d'enfants en France. Hein. Donc vous n'êtes plus les... Ah, le sauveur. Merci. C'est que de l'eau, hein, zut. De la bière, non. Vous voyez les clichés. Voilà. Nordiste, bière. Nanana. Aucune bière. Oui, je dis donc, vous n'êtes plus les seuls éducateurs de vos enfants. Maintenant, il y a plein d'autres personnes qui éduquent vos enfants. Vous avez les animateurs du périscolaire le matin, vous avez les dames de cantine le midi, vous avez les ZATSEM qui sont en école maternelle, vous avez d'autres vous avez quelquefois d'autres animateurs le soir qui accompagnent vos enfants. Et si vous les mettez dans des centres de loisirs le mercredi ou pendant les vacances, vous avez encore des autres intervenants qui vont s'occuper de vos enfants. Donc, c'est aussi des figures d'attachement pour vos enfants et c'est aussi des éducateurs et ils ont un rôle pas négligeable. Et je reviendrai, ça peut vous poser quelquefois des soucis dans la relation à vos enfants, la formation et l'accompagnement de vos enfants dans ces structures-là. Et je dis que vous n'êtes plus les seuls éducateurs parce que je ne sais pas si c'est votre réalité, mais il y a des enfants qui restent 10 heures d'affilée en crèche. Donc c'est compliqué quand même pour certains enfants. Donc quand je vous dis qu'il faut aussi regarder ce côté-là, et c'est ce côté-là qu'on va les regarder aussi. Je dis aussi que parler de parentalité positive ou bien traitante, mais surtout positive, on risque d'uniformiser les réponses. comprenez l'idée ? Faites ceci, faites cela, faites pas ça surtout. Hein. Pourtant, on le sait, chaque famille est différente, chaque enfant est différent, chaque histoire est différente. Ce qui peut être bon pour une famille ne peut ne pas être spécialement bon pour l'autre. Maintenant, j'exerce comme thérapeute, comme analyste, j'accompagne aussi des familles. Ce que je peux dire pour une famille, je ne le dirai peut-être pas pour une autre famille. Et je trouve que ça, on n'insiste pas assez et ça devient des recettes. Voilà. Et donc, voilà, je vais me faire des amis déjà dans la salle. Donc, ce qui peut être bon pour le couple de Antoine et Germain ne va pas spécialement être bon pour le couple de Sophie et... On va lui donner quoi comme prénom ? Gisèle. Donc voilà. Et ça peut donc enclencher, je vois ça chez de nombreux parents, de la culpabilité. Et la culpabilité, messieurs, dames, ça n'aide pas tellement à grandir. Elle vous freine dans votre développement. Parce que j'entends, oula, j'étais trop loin, comment je fais marche arrière ? Comment que ça se fait qu'elle est arrivée ? Au secours ! Comment que ça se fait que j'arrive là après ? Bon, bah écoutez, il y a une diapo qui a disparu. Enfin, toujours est-il, j'entends, j'ai tout lu, les Filiosa, vous voyez qui ? Les Guéguin, vous devez voir qui, puisque vous êtes dans ce salon ? Les Salomé, les Thomas d'Azambourg, qui d'autre encore ? Les Faber et Maastricht, hein, je ne sais pas quoi, là. La communication non-violente, les Thomas d'Azambourg, les Marshall Rosenberg, et peut-être dans la salle, des Arnaud Dereau aussi, je vais me faire plaisir. Donc, vous lisez tout ça. Et j'entends beaucoup de mamans et de papas, et surtout des mamans quand même, qui lisent tout ça et qui disent « je patoche toujours autant ». Et donc limite en pleurs dans mon bureau en disant « j'ai tout lu, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est écrit, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à bouger, ma sorcière intérieure revient ». Et ça, on n'en parle peut-être pas assez dans la parentalité positive, qu'il faut aussi accueillir ça. Je dis donc que la solution est ailleurs. Ce ne sont pas simplement dans les livres que vous allez développer votre parentalité positive. Parce que dire stop plutôt que non, vous l'avez dû le lire, ça marche avec certains enfants, ça ne marche pas avec d'autres. Parler en positif plutôt qu'en négatif, bien sûr c'est intéressant pour le système neurologique, semble-t-il, mais ça ne marche pas avec tous les enfants. Ou écouter l'émotion plutôt que punir, bien sûr qu'on peut être que d'accord, mais qu'est-ce que c'est compliqué ? Et je vois quelquefois des sorties de crèche avec des mamans ou des papas qui se disent dans une parentalité bienveillante, j'ai peur quelquefois. Alors c'est vrai que tout passage et tout changement demande une étape. Et donc bien sûr, quand vous rentrez dans ce chemin d'une parentalité positive, ça vous demande une adaptation. Et donc quelquefois ça sonne faux. Et c'est ça qui est quelquefois dangereux entre « je ne veux plus être cette mère-là, mais je veux être cette mère-là plutôt ». Le passage est quelquefois compliqué pour vous. Et en extérieur, on le voit. Je disais à Elisabeth qui m'accueillait, j'accueille actuellement une petite fille en thérapie pour des tocs verbaux. C'est épuisant. Je pense qu'il y a un lien avec cette idée que cette maman veut être parfaite. Vraiment. Donc, elle veut être aussi parfaite. Alors, oui, c'est pas la même diapo qui va arriver. Les connaissances, c'est ce qu'on sait aujourd'hui en psychologie, en neurosciences, si vous avez lu les bouquins de Catherine Guéguin, c'est vraiment quelqu'un qui a apporté aussi beaucoup en France, hein, doivent être bien sûr partagées auprès de vous. Mais je dis souvent que ces connaissances doivent être éprouvées dans votre corps. Et pas simplement intellectualisées et rester dans votre tête. Là, voilà la diapo. Parce qu'une transformation de sa relation à l'enfant passe par une transformation sensorielle, émotionnelle, et corporel. Et si votre corps bloque, et on y reviendra certainement, vous pourrez lire beaucoup de bouquins et de bouquins, ça ne bougera pas. Donc vous voyez où je veux en venir, peut-être. Ça va ? Prendre le chemin d'une parentalité bien traitante, c'est aussi accepter que parfois, certains jours, rien ne marche. Et que pour l'enfant... Voilà. Il y a la maman en public, d'accord, qui est dans le jardin public à Lyon, dont l'enfant est en haut d'un toboggan et qui ne veut pas descendre, et qui empêche tous les autres de monter. Et la maman qui dit « bon, je vais gérer ça avec bienveillance, d'accord ?» Ça reste compliqué quand on a le regard des autres mamans, surtout qui disent « comment elle va faire, elle, sans être dans l'autorité ?» Et sans être dans l'obéissance, d'accord ? Donc, il y a quelquefois la maman en public et il y a la maman à la maison. Et pour avancer dans la parentalité bien traitant, il faut accepter la seconde maman. Si vous n'acceptez pas que quelquefois vous êtes une sorcière, un monstre pour votre enfant qui vous dit « je t'aime plus, t'es vilaine, la maman est telle, elle est plus gentille », vous n'allez pas avancer. C'est quand on accepte notre monstre intérieur, ce que les Jungiens appellent l'ombre intérieure, qu'on avance et que votre parentalité va vraiment s'épanouir. Mais je trouve, et vous me direz si je me trompe, quelquefois certains parents qui prennent ce chemin, ils n'acceptent pas de voir ce côté d'ombre qu'ils ont en eux. Ça va pour vous encore ? Vivre pleinement une parentalité bien traitante, c'est accueillir sa part d'ombre, donc. Vous savez ce qu'on n'aime pas voir. On a tous nos parts d'ombre et on n'aime pas toujours voir ça. Et vous avez des mamans en larmes, quelquefois dans mon bureau, parce qu'ils disent « j'ai un peu crié ». Ou une maman me dit « mais vous vous rendez compte ?» Je lui ai dit « parce que ». Je lui ai dit « où est le problème ?» Je crois que c'est un gamin de 10 ans qui lui demandait quelque chose. La mère n'avait pas envie de répondre. Elle dit « oh, et parce que ? Pourquoi ? Parce que ?» Elle n'avait pas plus de réponse que ça. Et on peut ne dire à un enfant « parce que j'ai pas envie de réfléchir plus que ça ce soir ». D'accord ? Donc maintenant, tu vas dans ta chambre. Voilà. Mais c'est quasiment plus permis, ça. On vous donne quasiment plus ces permissions-là. On en reparlera aussi. Où j'en suis ? Alors, tous les parents souhaitent des enfants heureux. Vous êtes là, vous souhaitez certainement des enfants heureux. Vous souhaitez que la relation soit fluide et sereine. Et pourtant, c'est loin, loin d'être ça dans le quotidien. Et plusieurs éléments, et c'est sur ça que je voulais vous arrêter avec vous, sont à prendre en compte pour que cette relation soit le plus bien traitante possible. Vous n'êtes pas 100% responsable de la relation à l'enfant. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de collaboration, vous avez besoin que toute la société vous porte, et on est loin d'être une société qui est bienveillante et qui aide les parents à construire leur rôle parental. Vous êtes d'accord ? Oh ! Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte et je vais m'arrêter un peu sur ces différents critères et on pourra échanger avec vous après. Un que je vais m'arrêter avec vous, c'est l'organisation et le fonctionnement du quotidien qui peut être source de stress. Là-dedans, on va rajouter le chapitre « L'organisation de notre société ». Les lieux de vie de vos enfants aussi. Il faut s'y arrêter. La préhistoire. Votre préhistoire, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on va aller voir dans votre préhistoire. Et attention, je fais du Céline Dion, l'amour. Qu'est-ce que vient faire l'amour dedans ? Vous allez voir. Ça, c'est quatre critères qui, selon moi, sont à réfléchir tous ensemble dans une société pour que votre fonction parentale soit le plus bienveillante et le plus positive possible. Donc, on va les regarder dans chaque aspect. Le stress du quotidien. Je dis souvent que le monde qu'on offre aux enfants et aux parents n'est pas un monde facile pour éduquer un enfant. Il est beaucoup plus compliqué maintenant d'élever un enfant que de tant de nos parents. La société n'est pas assez pensée pour les parents. N'est pas assez pensée. La ville n'est pas assez aménagée pour les enfants. Je rêve d'une ville et d'un vrai projet politique où tout est pensé pour ses parents et pour ses enfants. Vous avez encore certains parcs publics où des assistants de maternelle me disent « je ne peux même pas aller avec ma poussette double puisque je ne peux pas rentrer dans le parc, puisque les portes sont étroites, vous savez, les petits squares de jeu quelquefois. » Donc la société n'est pas assez pensée. Une société qui aime ses enfants devrait mettre au cœur de tous ses projets d'aménagement l'enfant et sa famille. Donc voilà. Votez bien. Mais non, mais on est dans une société dingue. Je partageais avec une éducatrice qui est là, Elisabeth. Il y a beaucoup de gens actuellement qui se baladent avec une couleur particulière dans les rues de partout, là. Il y a des réunions qui se passent. On n'entend nulle part parler de parentalité et on n'entend nulle part parler de petite enfance. Nulle part. Par contre, il y a des choses qui se préparent. Et qu'il faudra regarder de près, parce que ce n'est pas des choses très marrantes. Donc on est loin d'être dans une société qui aide les parents. Moi, je rêve que des parents puissent aller au boulot un peu plus tard que d'ordinaire pour déposer leur enfant à l'école. Vous avez des parents qui sont obligés de courir à la garderie périscolaire pour aller au travail. Dans certaines sociétés, vous n'avez pas ça. Vous pouvez voir des parents arriver au travail, ils gèrent leur temps de travail, ils le font. Avec la réforme de l'école qu'il y a eu précédemment, vous avez des jeunes enfants de 2 ans qui n'allaient pas en garderie périscolaire, qui maintenant vont en garderie périscolaire. Vous savez, la réforme des temps scolaires. Et donc, ça a encore multiplié les intervenants auprès de vos tout-petits. Et ce n'est pas facile pour ces jeunes enfants. Si l'enfant était au cœur d'un programme politique ambitieux, si on avait vraiment des hommes d'État et peut-être pas des hommes politiques, il y aurait des facilités pour les parents de leur organisation de travail. Donc, tel que je vous disais, arriver plus tard le matin et peut-être quitter plus tôt le soir pour qu'à 4h30 ou 5h, ils ne partent pas encore en garderie périscolaire. Après, tout ça doit rester des choix, bien sûr. Les cantines, je vous donne quelques éléments, mais regardez les cantines de vos enfants. Il n'y a rien de pire pour aller manger. Et après, on s'étonne que nos enfants ne mangent plus. Regardez les ambiances, quelquefois, de ces lieux, et regardez comment ils sont installés. C'est quand même pas triste, quelquefois. Donc tout ça, ça ne vous aide pas dans la parentalité. Les rues, les parcs ne sont pas assez aménagés pour vous. Et je suis sûr que vous avez d'autres idées, puisque vous êtes à ce salon. Donc je suis sûr que vous avez d'autres idées pour aménager une ville ou faire que la fonction parentale serait plus facile pour vous. Donc voyez, il y a cet élément à prendre en compte. Toute la responsabilité n'est pas sur vous. Et regardez comme notre société est loin de prendre soin des enfants, puisque la loi, et vous l'avez entendu, a été votée le 26 novembre, semble-t-il, contre la fessée. Vous avez entendu parler de tout ça ? Non ? Elle n'est toujours pas votée, puisqu'elle doit être présentée aux sénateurs, et cette loi n'est toujours pas passée. Donc je ne sais même pas si les sénateurs vont signer la loi. C'est-à-dire qu'on est encore un pays où on peut facilement humilier nos enfants et leur donner des fessées. Et je vous dis pas, moi j'ai fait partie du mouvement qui a porté cette loi, les agressions qu'on avait des gens qui étaient contre en disant « mais c'est quoi cette connerie d'interdire de donner des fessées à nos enfants ?» Edwige Gentier, qu'on cite beaucoup, elle a beaucoup souffert. Hein. Quand elle était députée et qu'elle a présenté la première loi, elle s'en est pris des humiliations. Hein. Donc vous voyez, il y a ça. Si cette loi est votée, on pourra dire peut-être qu'on avance d'un cran en France. Et bien sûr, on pourrait dire aussi rajouter, rallonger le congé parental ou le congé maternité et le congé paternel aussi. Il y aurait peut-être tout ça à faire pour que les enfants évitent les crèches et les assistantes maternelles. Ça va pour vous ? Bon. Et je dis ce monde est compliqué parce qu'on est un monde qui va trop vite, qui est surstimulé. Et nos enfants, pour aller bien, et vous aussi d'ailleurs, vous avez besoin de lenteur. Catherine Guéguin vous dirait, par rapport au cerveau, que plus un enfant est élevé dans la lenteur, pas dans la mollesse, hein, dans la lenteur, plus il va faire des connexions neuronales. Et donc vous voyez, quelquefois, tout va vite autour de l'enfant, tout s'accélère, et il y a des super stimulations. Tout ça, ça ne vous aide pas non plus dans votre fonction parentale. Donc vous avez les bons, donc pardon, votre enfant va donc baigner dans le stress parce qu'une surstimulation, un monde qui va vite va créer du stress chez les enfants et va vous créer du stress chez vous aussi. Et alors quand deux stress se rencontrent, ça fait des étincelles. Hein. Donc c'est comment vous pouvez avoir un effet sur cette société. Je pense que c'est un peu le thème aussi de votre journée aussi et demain. Pour que vous ayez moins de stress et pour que tout se passe mieux chez vous. Parce que quand on a quelquefois trois enfants, dès 7h du matin, qui font déposer un à la crèche, l'autre chez l'assistante maternelle et l'autre à l'école, il y a des superwoman quelquefois. Hein. C'est pas facile hein, que la grande ne veut pas mettre ses chaussures et que vous criez partout en disant « mets tes chaussures ». On s'en va. Dépêche-toi. C'est le matin, beaucoup de parents. Hein. Bon. Donc le fameux dépêche-toi, il est vraiment bien présent dans les familles et ça peut vraiment être une source de stress et ça peut amener encore plus de difficultés pour les enfants. Et le soir, ça recommence, hein, puisque le soir, dès que vous êtes dans la voiture avec vos trois enfants, déjà certains enfants peuvent entendre « Bon, toi, tu vas à la douche, fais les devoirs du second. » Vous avez déjà des enfants bien énervés dans la voiture. Hein. On leur donne encore des ordres alors que toute la journée, ils ont entendu des ordres. Donc vous voyez, c'est comment on peut changer tout ça. Hein. Vous êtes d'accord ou pas ? Donc je dis souvent, combien de parents que vous êtes là, vous êtes des super-héros. Hein, et vous ignorez que vous êtes des super-héros. Et le stress, et vous l'avez lu, certainement, va entraîner vraiment des comportements assez débordants chez les enfants. Et c'est pour ça qu'on a peut-être des enfants qui sont un peu plus compliqués, dirait-on, parce qu'on arrête de vouloir des enfants qui obéissent bêtement. On arrête d'être dans une autorité-soumission, ce que j'appelle l'autorité-soumission. Mais c'est compliqué d'aborder tout ça. Et un enfant qui est en stress, c'est un enfant bruyant. Hein. Et on veut des enfants calmes. Hein. Vous avez un enfant dans le train qui crie, vous faites un Lille-Lyon pendant 5 heures, vous dites, je vais changer le wagon hein, quand même. Mais bon, c'est un peu compliqué, c'est comment on fait avec tout ça. Hein. Où j'en suis ? Alors, ensuite, voilà, les lieux de vie de vos enfants. Allez regarder de ce côté-là aussi. Parce que les enfants vont chez l'assistante maternelle, peuvent aller aussi en crèche, peuvent aller en école maternelle, bien sûr, en accueil de loisirs, et ce qu'on appelle des garderies périscolaires. Et bien ça, c'est un paramètre à prendre en compte aussi pour avoir une parentalité bienveillante ou bien traitante. Parce qu'en tant que parent, vous devez être aussi garant de la qualité et de la formation de ces gens qui accueillent vos enfants. Et je vous assure, moi qui voyage partout en France et qui forme ces gens, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire partout. Parce qu'ils sont comme vous, dans une préhistoire que je parlerai tout à l'heure, et ça peut vraiment être compliqué dans la prise en charge. Et donc, vous allez en subir les conséquences le soir. Hein. Si un enfant, toute la journée, attend des ordres à l'école, entend du stress à l'école, à 5 heures, préparez-vous. Hein. Oui. Ben, l'école maternelle, c'est là-dedans. Oui, c'est très variable aussi. Moi, j'entends par contre beaucoup de parents qui me disent « Oh là là, depuis qu'il est entré à l'école maternelle, c'est plus le même. » Une maman me dit « Elle s'est transformée en Ellie Olson. » Depuis qu'elle a quitté la crèche et maintenant qu'elle est à l'école maternelle. Et c'est vrai, c'est stressant. Moi, je recevais la dernière fois un petit gamin de 6 ans qui ne voulait plus aller à l'école. La maman dit « Je ne sais plus quoi faire avec lui et puis aller à l'école. » J'ai un tableau comme ça dans mon bureau. Et donc, je vais essayer de vous dessiner quelque chose. Si je vous trouve mon stylo... ici. Et je lui dis, tu peux me dessiner ta classe? Et donc, il me dessine sa classe, il commence à dessiner sa classe, je vous le fais rapidement. Il fait les tables. Je dis, t'es assis où? Il dit, je suis là. Et là, il dit, il y a Mohamed, là, il y a Sophie, là, il y a Kevin. Et il me dit, tout en dessinant, elle va me rouspéter. La maîtresse va me rouspéter. Ben, je dis, tu sais ça comment qu'elle va te rouspéter? C'était la raison qu'il ne voulait plus à l'école. Et il me dit, parce que lundi, elle a rouspété Mohamed. Mardi, elle a rouspété Sophie. C'est mon tour. Ben oui, parce qu'un enfant a besoin de sécurité. Et s'il n'est pas élevé dans la sécurité, qu'il a face à lui des adultes qui pètent les plombs et qui ne sont pas dans un comportement adéquat ou bien traitant, il ne comprend pas le sens. Et sécurité, ça rime avec sens. Et donc, si l'enfant ne comprend pas le sens, il va essayer de trouver le sens. Donc, vous voyez à quoi ça tient ? Donc, dans ces lieux qui accompagnent vos enfants, que ce soit le matin, que ce soit la crèche, l'assistante maternelle ou les écoles, il y a de quoi faire, je vous assure. Donc, préoccupez-vous de l'accueil et de la formation de ces gens. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait 3 ans, 4 ans, voire plus d'études, qu'ils sont quelquefois très compétents dans leur relation à vos enfants. Et vous avez tous certainement des exemples de situations où vous récupérez vos enfants à la sortie de crèche ou d'ailleurs à la sortie de l'école maternelle, où c'est une catastrophe chez vous. Hein. Ça déborde de stress. Hein. Vous leur dites « va au bain », vous avez un monstre qui se réveille. Vous dites « qu'est-ce qui se passe ? J'ai rien dit de grave. » Non, sauf que peut-être toute la journée, il a entendu « mettez-vous deux par deux, asseyez-vous, sortez vos crayons, chut, taisez-vous. » Et à un moment donné, vous êtes là et vous redonnez encore des ordres. Et ça, c'est plus possible. Parce que les enfants, ils savent ce que c'est une relation bienveillante, ils savent ce que c'est une relation bien traitante. Ce n'est pas un luxe pour eux, c'est un besoin fondamental. Et donc, quand ils ont face à eux des adultes qui ne sont pas dans cette relation-là, ça crée du stress. Et bien sûr, papa et maman, bah, tu vas tout prendre, puisque je t'aime. Et donc, il va évacuer tout le stress auprès de vous. Mais alors, comme disait une maman, j'aimerais mieux qu'il m'aime moins. Hein. Parce que c'est compliqué d'accueillir le stress d'un enfant. Hein. Donc, regardez de ce côté-là. Parce que peut-être que vous ne savez pas, mais on est quand même dans un pays assez dingue. Dans la crèche, là, en 2000, je ne sais plus, une ancienne ministre, un ancien gouvernement avant Hollande, a quand même eu le culot de baisser la qualification dans les crèches. Hein. Ça ne se voit dans aucun métier, ça. Comme je dis toujours, imaginez que vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit, ben voilà, il y a le chirurgien là, qui 7 ans d'études, 15 ans d'études, je ne sais pas, et vous avez l'apprenti, vous voulez le qui ? Ben, en crèche, c'est ça qui s'est passé. On a baissé la qualification dans les structures petite enfance. c'est une catastrophe. Et c'est parti, je pense, encore pour baisser la qualification, voire les normes d'encadrement. Quand je dis qu'il faut s'occuper de ça, il faut savoir qu'une auxiliaire de puériculture, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, s'occupe de 5 bébés. Un besoin fondamental de vos bébés, c'est d'être dans les bras. Et bien, quand une auxiliaire doit s'occuper de 5 bébés, comment elle fait ? Alors, ils le font correctement, globalement, hein, mais c'est quand même douloureux. Je ne suis pas en train de vous dire ne mettez pas en crèche. Je vous dis simplement, en tant que parent, soyez dans une écoute bienveillante et voyez comment vos enfants sont accueillis. Une crèche bien traitante qui va vous aider dans votre parentalité positive, ce n'est pas une crèche qui dit on fait des activités avec les enfants. Une crèche bienveillante qui va vous aider dans la parentalité, c'est une crèche qui va vous parler de continuité de la prise en charge, de soins, qui va vous parler de référence, d'attachement. Ça, c'est une crèche où vous pouvez dire « j'ai confiance ». Mais si on vous dit « regardez, il a fait une belle cloche avec des gommettes », ce n'est pas très intéressant. Donc on a à s'interroger tout ça parce que même l'école maternelle valorise fortement la compétition, la réussite, la performance et pointe encore du doigt les erreurs, alors que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Donc vous avez des enfants qui sont en état de stress par rapport à ça. Je vous parlais de ce petit garçon, mais je pourrais vous parler aussi d'un autre petit garçon qui dit « je ne veux pas aller à l'école, je vais avoir un bonhomme qui ne sourit pas ». Le bonhomme, c'est le smalé. Ou un autre petit gamin qui me dit « elle m'a enlevé deux images ». En maternelle, c'est-à-dire que la maîtresse donne des images et s'ils ont un mauvais comportement, j'enlève les images. Comment voulez-vous que les enfants aillent bien le soir ? Comment voulez-vous que le soir, vous ne récupérez pas du stress et des enfants en difficulté ? Donc, la parentalité bienveillante, elle passe aussi par une préoccupation de tous ces lieux-là et des vrais espaces pour nos enfants, et c'est loin d'être le cas. Ça va ? Vous êtes stressé ? Parce que même dans ces lieux-là, et peut-être même ici, l'autorité et l'obéissance ont encore ces lettres de noblesse. Il faut qu'il obéisse. C'est encore très prégnant chez beaucoup d'éducateurs. Un petit enfant de 2 ans qui vous dit non, ce n'est pas toujours facile de l'accepter, de sa petite hauteur, non. On entend encore, ce n'est pas le choix de chef ici. Ou j'ai encore entendu, j'ai formé hier une crèche de Lyon, j'ai encore entendu les professionnels dire, ah oui, on fait ça. On fait quoi ? On les assoit sur une chaise, il a 18 mois et on lui dit « tu réfléchis ». Déjà, moi, j'ai quelquefois du mal à réfléchir que j'ai une montée de stress. Alors, vous imaginez un enfant de 18 mois. Donc, il y a encore des choses comme ça. Donc, vous devez aussi regarder de ce côté-là pour que votre parentalité se porte bien. Donc, je ne vous parle pas, pour les plus grands, des évaluations et des notes qui sont aussi une catastrophe. Donc, vous ne voyez pas, je vous demande, il faudrait tout changer. Mais même les parents adorent les notes. Ramener un 18, on sait évaluer votre enfant. Non. Il faut arrêter avec tout ce système. Je continue ? Je pourrais continuer. Regardez, on va imposer la scolarité des enfants à 3 ans. C'est bien, formidable. Je dis, ce monde devient fou. Vraiment devient fou parce qu'on demande même, on entend même en crèche quelquefois, les éducateurs de crèche peuvent le dire ici. J'ai encore entendu ça il y a 15 jours, une maman qui disait à l'enfant de 5 mois, bon, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? 5 mois. Alors, il a fait des choses, mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? C'est dingue ça, mais bon. Je dis souvent, on a simplement existé avec les tout-petits, être là et les regarder. C'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, tout en aménageant un espace qui est sécurisant pour eux, contenant, où ils peuvent faire leur découverte. Donc, leur demandez pas ce qu'ils ont fait, vos enfants en crèche. Demandez-leur surtout comment ils se sont sentis en crèche. Sylviane Campino, qui est une grande psy en France aussi, dit, on est dans un monde de dingue aussi. Puisqu'il y a quelques années, quand on était parents et quand on allait en forêt avec nos enfants, on disait « Ah, regarde les belles fleurs !» D'ailleurs, l'accent du Nord est revenu là. Ah, regarde les belles fleurs, on va les sentir. Maintenant, vous êtes jeunes parents, vous allez en forêt, vous dites « Bon, on va les compter. » On dit « Mais c'est quoi ce truc ? » Sentez-les ! Sentez-les, tout simplement. Mais bon. Alors, votre préhistoire. Ça, c'est un sujet important. Si les deux premiers sujets sont importants, ce sujet-là est très important. Alors, je ne parle pas de la préhistoire au sens large, je parle de votre préhistoire à vous. Vous ne pourrez pas avancer dans une parentalité bienveillante et bien traitante si vous ne réfléchissez pas sur votre propre histoire. Parce que je dis souvent, une histoire va se créer, une relation, et une histoire va se créer avec vos enfants. Vous êtes le résultat, vous, d'une préhistoire. Et cette préhistoire va se rejouer dans la relation avec vos enfants. Donc, si vous ne travaillez pas sur le lien que vous avez eu avec vos parents, la culture éducative dans laquelle vous avez baigné, quand l'enfant a des crises émotionnelles difficiles, ça peut vous retitiller tout ça. Je dis souvent, tous les débordements de comportement que vous avez, toutes les crises émotionnelles que vous pouvez avoir face à vos enfants, c'est souvent lié à du stress, mais c'est souvent votre histoire qui vous rappelle. Parce que face à un enfant, on devrait être dans une relation assez fluide et assez lisse. Pour moi qui suis thérapeute, une relation lisse, c'est une belle relation. Alors qu'en France, il faut monter dans l'écran, les tours. Non, non. Donc toutes ces relations qui vous font perdre pied, qui éventuellement la main part, ou qu'on insulte quelquefois nos enfants, ou qu'on l'agresse, « Va dans ta chambre, je veux plus te voir, t'es infernal !» Là, vous pouvez dire « Oh là là, soit je suis en état de stress, soit il a titillé quelque chose d'une blessure d'enfant. » Ça va ? Ah oui, il y a toujours un grand silence à ce moment-là. Hein. Ça va cette idée de préhistoire ? Cette préhistoire va vous amener dans beaucoup de croyances, beaucoup d'illusions et beaucoup de principes. Et je dis souvent, pour être dans une éducation bienveillante, bien traitante avec ce parent, abandonnez tous vos principes, abandonnez tous vos illusions, parce que c'est pas avec ça qu'on élève nos enfants. Vous savez, on a tous rencontré des jeunes couples sans enfants qui disent « Ah non, mais je ferai jamais ça hein. !» Et quand ils sont là, ils sont là. Parce que justement, leur préhistoire leur rappelle à l'ordre. Et là, c'est un peu compliqué. Donc allez travailler sur ce côté-là, allez travailler sur vos blessures, et c'est ça qui me fait dire, si vous n'allez pas travailler à un niveau sensoriel, si vous n'allez pas travailler à un niveau corporel, sur vos peurs d'enfants, parce que tous nos problèmes d'adultes viennent de la peur. La peur a créé en nous des choses pas très simples, et a déclenché des choses très compliquées. Et c'est comment vous pouvez aller travailler avec un thérapeute peut-être sur vos peurs. Quand vous nettoyez vos peurs, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans la relation avec vos enfants. Ça va ? Oh là 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 là. L'amour. C'est beau de finir là-dessus, mais après je vous laisserai la parole. C'est très en lien avec votre préhistoire. Je dis aussi que c'est difficile dans la relation à l'enfant, et ça peut être difficile parce que justement vous les aimez. Alors je vais peut-être vous dire quelque chose d'étrange, c'est un projet de livre que j'ai qui traîne mais que j'aimerais bien écrire. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour est un état d'être. Et quand on est dans l'amour, il n'y a aucune blessure, il n'y a aucune peur. Et je dis souvent, vos enfants arrivent pour vous nettoyer de vos blessures et de vos manques. Ils vous amènent dans un amour authentique et vrai. Si vous savez accueillir cette relation, ce qu'ils vous offrent, vous allez redécouvrir ce que c'est être dans l'amour. Pas être dans le sentiment d'amour, mais d'être dans l'état d'amour. Et c'est totalement différent. Donc c'est tout à fait normal que c'est compliqué parce que vous les aimez. Parce qu'ils titillent vos blessures pour que justement ces blessures partent et que vous découvrez l'amour. C'est-à-dire que je dis souvent en plaisantant, au lieu de payer un thérapeute, il faudrait peut-être donner plus d'argent de poche à vos enfants. Puisqu'ils vous font travailler des choses, quand vous voulez bien voir. Vous comprenez cette idée ? L'amour, c'est quelque chose d'authentique et de sincère. Voilà. L'enfant qui arrive au monde est dans un amour authentique. Il vous aime inconditionnellement. Et c'est pour ça que je dis, ne jouez pas avec ça, cet état d'être. Et on a tous joué avec cet état d'être, dans les magasins, Auchan ou autres. Enfin, vous n'avez peut-être plus à Auchan, vous, ici, mais bon. Moi, j'y vais plus non plus, mais bon. Mais vous savez, dans ces grands magasins où l'enfant fait une crise dans le rayon, et on se cache pour qu'il arrête de faire sa crise. Ça, c'est jouer sur le sentiment d'amour, c'est jouer sur cet amour inconditionnel pour qu'ils ont pour nous, et c'est jouer sur cette sécurité intérieure. On l'a tous fait ici. Et donc, être dans une parenté bienveillante, c'est vraiment maintenir ce lien de sécurité, ce lien d'amour, pour que justement, l'enfant soit beaucoup plus costaud. Donc, ça rejoint l'idée de votre préhistoire, et ça rejoint l'idée de nettoyer vos souffrances. Parce que plus vous allez nettoyer vos souffrances, vos manques, et vos principes, et toutes ces choses-là, plus vous allez être dans cet état d'amour. Ça vous parle ? Ou pas ? On a le droit de parler d'amour à Lyon ? Je dis souvent, les enfants nous proposent, je vous le disais, un amour inconditionnel. Et très très vite, nous, on leur propose un amour qui est conditionnel. Si ceci et si cela. Si t'es sage, t'auras ça. Si ceci, t'auras ça. Et là, on est déjà en train d'abîmer cet état d'amour. Hein. La culpabilité arrive là ou ça va ? On en parlera, hein, vous la laisserez ici. Hein. Donc, il n'y a rien d'utopique de vouloir vivre une relation bien traitante avec ses enfants. Hein. Au contraire, c'est un très beau projet. Mais je préfère utiliser bien traitance que positive, parce que dans l'idée de positive, il y aurait un côté négatif. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans, on n'est pas dans ce que défend cette parentalité. Donc, vous voyez, il y a plusieurs aspects à travailler par rapport à ce que je vous ai dit. Qu'une société construit un vrai projet d'accueil pour ses tout-petits et pour ses familles, et c'est loin d'être le cas. Une société qui repense la formation des encadrants, qui valorise ses professionnels, parce que je ne vous parle pas de la reconnaissance de ces professionnels petite enfance qui accompagnent vos enfants, ça a pleuré, hein. Une capacité que vous avez, vous, à repenser votre organisation personnelle et familiale, parce que quelquefois des problèmes de parentalité, au lieu d'aller voir un psy ou de lire des bouquins, c'est quelquefois transformer simplement son quotidien, hein. Je me rappelle d'une maman qui a 5 enfants, elle dit « Oh là là, le soir, c'est compliqué. » Elle arrive un jour à un atelier, elle dit « Ça y est, c'est bien. » J'ai qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit « On mange à 6h30. » Elle dit « C'est un EHPAD, mais c'est beaucoup mieux. » Et c'est vrai, parce que quelquefois, avec certains enfants, quand vous mangez peut-être à 7h30, voire 8h, un manque d'alimentation, ça peut créer du stress et de l'agressivité. Et donc, quelquefois, simplement, avant d'aller voir un psy en disant « J'ai un problème dans ma relation avec mon gamin, j'arrive pas le soir », bah, changer l'heure du repas, peut-être. Avant de se prendre la tête sur des questions existentielles. Une maman aussi, un atelier qui dit « Ah bah, j'ai fait ce que vous avez dit, ça marche pas du tout, votre truc. Qu'est-ce que je vous ai dit, déjà ? Ah bah, vous avez dit qu'elle a le droit de choisir, donc j'ai ouvert son armoire et ça a pris des heures. » Bah, je dis « Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans son armoire ? » Et alors, elle me fait toute la liste. Ben, je dis, oui, mais comment voulez-vous qu'elle choisisse sur 20 tenues ? C'est pas possible. Donc, je dis, j'ai loupé l'information. Je dis, si vous faites ça, mettez que 3 tenues dans l'armoire. Là, l'enfant pourra choisir. Il y a moins de complications pour lui. Mais si vous faites du Montessori et que vous laissez tous les habits dans l'armoire, ça, c'est sûr que l'enfant va perdre pied. Donc, vous voyez, la bientraitance, c'est toujours poser les bonnes questions. Parce que quelquefois, je peux dire des choses et que les parents prennent pour de l'argent comptant. Et c'est pas ça du tout que j'ai dit. Comprenez ces idées-là ? Je pensais à un autre exemple, mais ça m'a échappé. Donc, réfléchissez à votre organisation, à vos choses. Je dis souvent aussi, réfléchissez à vos gros cailloux. Vous connaissez l'histoire des gros cailloux ? C'est quoi vos priorités ? Et donc, comment aussi vous faites pour gérer votre stress ? Donc, vous allez tous vous inscrire à la sophrologie, à la méditation, à la pleine conscience et tout le bastringue, là. Mais ça vous aide bien. Et en même temps, je dis aussi, vous savez, on n'aurait quasiment pas besoin de faire de la méditation, hein. Si on est avec nos enfants, à la limite, on est dans un temps présent. Les enfants nous offrent un temps présent. Donc, si on est simplement eux, et là, avec eux, et présent à ce qui se passe, vous êtes dans un calme intérieur, hein. Et peut-être un truc que je donne souvent aux parents, c'est vraiment, il faudrait que tous les parents ici, vous vous offrez 10 minutes de silence, rien que pour vous, tous les jours. Ah bah oui, c'est compliqué quelquefois. Donc vers 5h du matin. Bah si, c'est bien, 5h du matin. Donc voilà, pour être dans ces bonnes énergies-là, d'être dans l'enthousiasme et être dans la joie. Ça, c'est de bonnes vitamines à offrir aux enfants. Plus vous avez un projet parental qui est d'offrir ça aux enfants, plus vous allez faire des enfants heureux. J'aime beaucoup ce que dit André Stern, que vous avez déjà accueilli ici, semble-t-il. André Stern dit « Les enfants sont 24 heures sur 24 dans l'enthousiasme et les adultes 3 fois par an. » Donc je vous propose d'être plutôt 24 heures sur 24 et 365 jours par an dans l'enthousiasme aussi avec vos enfants. Parce que plus vous allez être dans l'enthousiasme et dans la joie, plus ça va les nourrir et c'est une très belle et très bonne vitamine. Donc, toutes ces choses-là sont au cœur d'une relation bien traitante. L'authenticité, l'empathie, l'intégrité, l'estime de soi, la responsabilité personnelle. Arrêtez, en tant que parent, il faut reprendre la responsabilité de la relation. Ce n'est pas à l'enfant à changer, c'est à vous, hein. Donc, c'est ça, reprendre la responsabilité de la relation. Une volonté d'apprendre et de changer. La disponibilité. L'attachement et la joie d'être. Tout ça fait que vous allez être dans une relation bien traitante. C'est un sacré programme, hein ? Alors tout ça dans les éditions Chroniques Sociales, ils développent partout, dans plein de bouquins. Voilà. Maintenant, il suffit que vous dessiniez, vous, votre rôle de parent. Quel parent êtes-vous et quel parent vous voulez devenir ? Et que dans ce cadre, vous fassiez votre nouveau rôle de parent par rapport à tout ça, en tenant compte de tout ce que j'ai pu vous dire. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, ça va être beaucoup plus intéressant d'échanger avec vous. Allez, je vous écoute.
Merci Arnaud.
Il y a une question là-bas, Elisabeth. Là, pardon, allez-y.
Désolée.
Allez-y.
Bonjour, moi je suis plutôt très d'accord avec tout ce que vous dites. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de réticence au niveau des professionnels de la petite enfance sur l'idée d'attachement, l'idée d'être surtout dans l'accueil collectif. De dire, moi ce que j'entends souvent, c'est l'enfant doit s'adapter au collectif. S'il ne peut pas s'adapter, il ne faut pas qu'il vienne en collectif. Donc ça met des parents quand même dans la grande difficulté de dire, il se trouve qu'il est pris en crèche, donc qu'est-ce que je fais ? J'ai pas de nounou, quoi, voilà. Et moi, je sens cette résistance très fort et c'est vraiment, je trouve que c'est très difficile de dialoguer parce qu'il y a vraiment cette réticence de, l'attachement, c'est avec les parents, quoi. Donc,
non. Vous êtes la première figure d'attachement et les professionnels de crèche sont des deuxièmes figures d'attachement. Et donc, c'est comment je m'attache à son enfant. Moi, je dis tomber en amour de ces enfants-là, hein. Il faut tomber en amour. Après, les conditions de travail sont compliquées. La crèche que j'ai quittée hier, la section des bébés, ils sont 20. Dans une pièce qui est qui s'arrête à l'estrade. Vous imaginez l'estrade et les murs, c'est ça. 20 gamins. Moi, je me suicide. Hein. Donc, c'est des conditions compliquées. Et les parents sont peut-être pas assez vigilants là-dessus. Mais un enfant ne doit pas s'adapter au collectif. C'est le collectif qui doit s'adapter à l'enfant. Mais c'est la grande difficulté des crèches. Comme on leur a mis 60 gamins ou 40 gamins, ils sont persuadés qu'il faut les socialiser. Et dans tous les projets de crèche que vous voyez, marqué socialisation, c'est faux. Un enfant ne se socialise pas en crèche, il s'adapte. Et donc, même des parents sont dans cette croyance-là en disant « Tiens, je vais le mettre à la crèche avant l'école. » Gardez-le. Il n'a pas besoin d'aller à la crèche pour se socialiser. Et donc, la formation doit être vue et de retravailler.
Mais quels arguments vous donnez en formation, justement, par rapport à... l'enfant, il a besoin d'attachement, peu importe. Comment vous arrivez à les convaincre, en fait, quelque part, de ça ?
Je reviens sur des théories. Retravaillons sur la théorie de Bowlby. Et je les mets souvent en situation. C'est-à-dire que je vous ai parlé du corps. C'est-à-dire que je joue avec corporellement ce qui se passe quand on n'est pas attaché. Et tant que, quand ils le vivent dans le corps, ils disent « aïe, 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 d'accord, j'ai compris ». Ce qu'on appelle la pédagogie active. Si vous utilisez des outils de la pédagogie active, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai déjà vu des gens en formation pleurer simplement quand je travaille sur cette idée d'attachement. Ça touche des choses. Donc, c'est possible. Hein. Après, il y a une énorme responsabilité des gestionnaires et des directeurs de ces structures. Porter un projet bien traitant, c'est vraiment une grande responsabilité des directeurs de crèche. Hein. Mais ça peut être la même chose chez l'assistante maternelle, hein. Ça peut être compliqué aussi.
Hein. Merci beaucoup.
Je vais distribuer des numéros.
Bonjour, vous nous avez beaucoup parlé des mamans, pas du tout des papas.
En le lisant, je dis, oh là là, je vais avoir une question là-dessus, mais bon.
C'est moi, la question. Quel est le rôle que peut jouer maintenant le papa ? Quelle place on lui laisse, des fois, dans la famille aussi ? Et comment... parce qu'ils ont quand même des capacités d'adaptation moindres, hein, pour connaître. Hein. Alors, du coup, des fois, les mamans, elles pensent que c'est elles un peu qui savent tout. Mais le papa a un énorme rôle. Et comment le lui laisser ?
Ah oui. C'est la place qu'il doit prendre et c'est la place que vous lui donnez. C'est ça, c'est une rencontre entre comment la maman laisse la place à ce père et comment le père prend sa place. Mais les papas sont de plus en plus attentifs à tout ça et prennent leur place. Quand j'explique, je dis souvent à mes ateliers, quasiment avant l'an 2000, il n'y avait que des mères dans les ateliers. Que des mères. Depuis l'an 2000, il y a eu le bug, je ne sais pas quoi. Beaucoup de papas arrivent, et même seuls. Ils viennent réfléchir à leur parentalité aussi. Et ce qui intéresse bien les pères, c'est quand j'explique le fonctionnement neurologique. Quand j'explique le fonctionnement neurologique, les trois zones du cerveau, les émotions, les systèmes nerveux parasympathiques et orthosympathiques et toutes ces choses-là, vous avez des parents, des papas surtout, ce côté cartésien qu'ils ont peut-être plus que les femmes, peut-être. Ah, d'accord. Moi, j'ai un papa qui me dit « ça a changé ma relation à 100% ». Parce que le fait d'expliquer qu'il y a ça qui se passe et ça qui se passe à un niveau neurologique, au niveau du système et des choses comme ça, il y a des pères qui disent « Ah d'accord, donc c'est vrai, c'est pas que des conneries quand les psys nous parlent d'émotions. » Donc non, c'est comment ils prennent leur place et comment vous leur donnez. Mais ça peut être compliqué pour certains papas, c'est un rôle compliqué pour les pères. Hein. Mais bon, mais je pense que là, vous avez déjà... Moi, mes enfants, quelquefois, m'appelaient maman. Hein. Parce que c'est là qu'on voit que c'est un rôle qui est mélangé. Et je suis sûr qu'il y a des papas pareils. Ou alors, ils mélangeaient MAPA. Il y avait un mélange des deux syllabes. Parce que d'un seul coup, je changeais la couche. Et que d'un seul coup, ils avaient l'impression que c'était... Enfin, ils disaient maman. Voilà, ça leur rappelait leur mère aussi. Donc, donnez-leur de la place. Rallongeons le congé peut-être paternel aussi. Pour qu'ils s'investissent un peu plus dans la relation aux enfants. Et honorons ce que c'est l'accueil d'un tout petit. Je pensais aussi à un projet de société. Si on voyait plus d'hommes dans les crèches, il y aurait peut-être aussi quelque chose... Ben, compter les hommes dans les formations d'éducateurs ou d'auxiliaires, c'est un sur je sais pas combien. Et on a encore des questions comme ça. Moi, je me rappelle dans une crèche où il y avait un auxiliaire de puériculture, il y a des parents qui ont dit « Je ne veux pas que mon enfant soit pris en charge par cet homme. » C'était un bébé. Parce qu'on est tellement dans des peurs. Voilà. On ne peut pas imaginer qu'une femme peut faire des atrocités, mais un homme, oui. Et donc, quand cette place va aussi changer que vous verrez plus d'hommes dans les structures petite enfance et gestation maternelle, il y aura peut-être des vrais changements. Il y aura peut-être des vrais changements. Les ministres de la famille ou quelquefois même les responsables petite enfance élus dans les villes, c'est souvent des femmes. Hein. C'est un dossier secondaire, la petite enfance. Donc c'est pour ça qu'il faut porter votre parole et dire que le jeune enfant, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, je répondrai ça comme ça. Mais bon, ils sont là, les pères. Regardez, ils sont là, il y en a dans la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Elisabeth, là.
Je voulais revenir un peu sur le collectif. Moi, j'ai un enfant qui est en maternelle, qui avait une maîtresse qui essayait beaucoup d'être dans la bienveillance, et voilà. Mais les enfants étaient 29, elle n'avait pas d'ATSEM parce qu'il y avait un problème de remplacement d'ATSEM. Et il y a un moment, elle n'était pas en mesure d'exercer... J'ai envie de dire comme elle aurait eu envie d'exercer son métier. Et des fois, je trouve que il faut pas nécessairement rentrer dans la stigmatisation des professionnels. Et ils ont aussi... nous, c'est une classe de 30 enfants de 3 ans à gérer. Des fois seuls, je pense qu'elle peut être aussi en stress et du coup...
Parce qu'elle est en stress, parce qu'elle a l'inspection, parce qu'elle a des demandes, parce qu'elle a un programme, qu'il faut suivre obligatoirement le programme. C'est comment ces... Vous êtes enseignante ?
Non.
C'est comment les enseignantes se donnent à un moment donné la permission d'oser faire différemment. Parce qu'on ne gère pas 30 enfants. Cette gestion, c'est horreur de parler de gestion d'un groupe. C'est comment, justement, même dans une classe de 30, l'aménagement de l'espace des crèches et des écoles maternelles est excessivement important. Plus les enseignants réfléchissent à l'organisation de leur classe, où les enfants peuvent faire leur petite vie, genre la Montessori, ça se passe bien. Mais s'ils ont cette idée qu'il faut accompagner et contenir le groupe, ça, c'est vrai que c'est stressant. Donc, on peut gérer Maria Montessori, je pense qu'elle gérait des classes de 50 gamins. Alors, il ne faut pas dire ça au ministère.
Non.
D'accord. Mais bien sûr qu'il faut une ATSEM dans la classe, bien sûr qu'il faut tout ça, mais quelle liberté on se donne et quelle liberté on se donne d'arrêter avec le programme, là. Donc, voilà. Et moi, je disais encore, il faudrait peut-être plus d'éducateurs de jeunes enfants dans les écoles maternelles, parce que les éducateurs de jeunes enfants sont vraiment formés à la petite enfance. Et je trouve qu'on devrait laisser les enseignants tout ce qui est primaire et que les EJE prennent la place dans les écoles maternelles. Je rêve encore. Mais bon. Il semblerait que quand on rêve beaucoup, ça se réalise. Donc, je vais rêver.
On va laisser parler à monsieur. C'est si rare.
Bonjour, donc moi j'ai une petite question justement sur le système éducatif. Donc on dit que, enfin actuellement on a l'impression que l'éducation nationale ne donne pas des conditions favorables pour éduquer les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire quelque chose avec l'éducation nationale ou est-ce que les écoles alternatives sont les seules solutions ? Moi je pense, vous évoquez beaucoup Maria Montessori, donc on peut penser à la ferme aux enfants, etc. Ouais.
Je sais pas, je suis assez pessimiste. C'est Lynette Varès qui a un peu remué le cocotier en France. Elle est actuellement en train de former des gens en Belgique. On se dit, c'est quand même dingue ce truc. Non, je ne suis pas très optimiste. Je pense qu'il faut que ça passe par la formation. Je pense que les gouvernements, celui-là ou d'autres, ils vont devoir se repencher sur la formation des enseignants. les enseignants qui accompagnent vos enfants, ils ont un master 1 et après ils font un master 2. Mais le master 1, ça peut être géo, ça peut être philo, ça peut être biologie. Et ils font une année où on leur enseigne même pas des connaissances sur l'enfant. Moi, ça commence à bouger tout doucement. Je forme actuellement depuis septembre, une fois par mois, je travaille avec une école entière où je travaille sur cette idée de bienveillance et de bien-traitance. Donc je pense qu'en septembre, ils vont tout transformer. Mais ils apprennent tout. Ils ne connaissent rien. Et donc, mais ils sont prêts à bouger, à se transformer. Mais c'est des projets comme ça qui existent un peu partout en France. Mais ça a l'air d'être pas très soutenu par le haut. Hein. Le projet de loi de Blanquer, ça énerve beaucoup d'enseignants, semble-t-il. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu, mais l'école de la confiance, on ne sait pas où elle est, la confiance. Hein. Donc, il faut y croire, mais je pense que le changement viendra par vous, par les parents, parce que vous allez demander des choses, exiger des choses. Céline Alvarez, elle dit, il faut vraiment une ATSEM dans chaque classe. En maternelle, il faut vraiment une ATSEM dans chaque classe. Et vous avez des enseignants qui sont tout seuls. Donc, que les écoles alternatives... C'est ce qui est dommage avec les écoles alternatives, c'est pas ouvert à tout le monde. Hein. C'est quelquefois payant et c'est pas donné à tous les parents. Hein. Donc, pensez et croyez à ce que vous pouvez faire et changer sur le terrain. Et comment vous travaillez en coopération avec les enseignants pour qu'il se passe quelque chose. Mais les enseignants sont autant dans le stress que vous, hein, puisqu'ils ont l'inspection qui vient les visiter. Catherine Guéguin est très optimiste, elle, par contre. Catherine Guéguin, que je citais, que vous avez dû lire des gelées, elle se déplace partout en France auprès des recteurs et par des inspecteurs d'académie. Et donc, elle dit qu'il y a quelque chose qui est quand même en train de se passer. C'est-à-dire que les inspecteurs en France, les recteurs, sont en train de réfléchir quand même à tout ça. Donc, ça veut dire que ça va arriver tout doucement sur le terrain, quand même. Mais ça demandera peut-être une génération.
Juste pour rebondir là-dessus, moi j'ai une amie qui est enseignante en primaire et qui s'est formée elle-même à Montessori avec ses propres finances parce que dans son équipe, quand on en parlait, tout le monde trouvait ça un peu hallucinant, même parmi les enseignants, et qu'elle a pris sur elle de se former parce que ça l'intéressait et qu'elle l'a appliqué petit à petit à certains éléments dans sa classe, quoi. Mais ça reste un choix individuel. Alors, heureusement, il y a des nouveaux enseignants qui arrivent et qui sont ouverts. Donc, peut-être ça va aussi bouger de l'intérieur, mais c'est long. Moi, je voulais revenir sur autre chose. Vous avez parlé tout à l'heure des lieux. Je suis vraiment très contente de tout ce que vous avez pu dire. Il y a une petite chose, moi, que je trouve qui me manque peut-être et qui est sous-jacente dans vos propos, c'est la notion du collectif. Je trouve que les enfants, depuis tout petit, sont tout le temps dans des temps collectifs. On est un être, l'humain est un être sociable et c'est bien, mais vous parliez des 10 minutes de silence que chaque parent devrait s'octroyer, mais je pense que les enfants aussi ont besoin de ça. On a travaillé à une expérimentation dans l'école primaire où étaient mes enfants sur les rythmes scolaires avant que tout soit chamboulé par la loi. Et avec le centre social qui mettait en place des ateliers et non pas des activités, parce que ce mot activité nous hérissait le poil très très fort. Donc on avait mis en place des ateliers et parmi les ateliers, il y en avait un où c'était jeu de société ou Playmobil dans son coin ou sieste. Et il nous semblait important que les enfants qui le souhaitaient puissent, à un moment de la journée, se retrouver tout seuls avec eux-mêmes, dans un mode d'introspection et de recentrage sur soi, et de ne pas être tout le temps dans l'interaction avec les autres, que ce soit les adultes, les enfants, que ce soit dans la cour de récré, que ce soit, voilà, sans parler du bruit et de tout le reste. Donc, vraiment, cette notion d'être tout le temps dans des interactions collectives en permanence, 10 heures par jour, comme vous disiez pour certains, je trouve ça très, très nuisible au développement de n'importe qui, et surtout d'un enfant.
Je suis d'accord avec vous. Avec toutes les crèches de travail, quand je travaille avec eux dans les stages intra, je crée dans toutes les salles un coin pour être tout seul.
Il faudrait des ludothèques dans chaque école, dans chaque...
Les espaces crèches, vous avez des lieux où l'enfant peut aller tout seul, il n'est pas embêté. Vraiment, à chaque fois. Je dis, il faut un lieu où il peut s'enfermer, à la limite tout seul, et qu'il n'y a personne avec
lui. Mais en maternelle, même le coin sieste, ils ne sont jamais tout seuls. Ils ont des injonctions de fermer les yeux, parce que s'ils ont les yeux ouverts... Moi, mon enfant a eu ça, donc je l'ai enlevé de la sieste. Enfin, je ne le mettais plus à l'école l'après-midi, parce qu'il fallait... Elle lui disait, ferme les yeux. Si les enfants ne ferment pas les yeux, ils se regardent. Donc, du coup, ils s'empêchent de dormir, donc ça ne va pas, on ne peut pas gérer. Et je lui dis, mais... comment tu fais ? Alors il plissait les yeux très très fort, il disait mais je peux pas dormir quand je ferme les yeux, parce qu'il plissait les yeux très très fort. Donc je dis bon stop, on arrête, tu vas plus à l'école l'après-midi, tu fais la sieste à la maison et on n'en parle plus. Parce que j'ai eu cette possibilité de faire ce choix-là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Mais oui, mais oui. Mais tout ça, ça a à voir avec la préhistoire. Si on était dans un vrai respect de l'enfant, si on travaillait là-dessus, même dans les centres de formation, on n'arriverait pas à des choses comme ça. Mais le collectif fait quelquefois que les adultes partent dans des comportements qui ne sont pas sains. Hein. Je leur dis souvent, ne faites pas... Enfin, moi, je pousse le bouchon loin. Je dis, arrêtez avec... En crèche, je dis, allez, on va chanter. Allez, on va raconter des histoires. Non ! Non, 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 non. Prenez un bouquin, asseyez-vous, racontez une histoire. Ceux qui viennent, ils viennent. Mais arrêtez d'être dans le tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oui, 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 c'est quelque chose de dangereux. Oui, oui. Mais il y a des structures qui réfléchissent à ça. Moi, je travaille avec des structures où les enfants peuvent aller même dans le jardin tout seuls. Mais ils vont jamais tous ensemble. C'est-à-dire que l'éducatrice a installé devant la porte d'entrée une étagère où il y a 6 paires de bottes avec 6 panchos. Quand il n'y a plus de bottes et plus de panchos, on ne peut plus aller dans le jardin. C'est eux-mêmes qui... Parce que s'ils les laissent 25 dans le jardin, ça va être difficile. Donc le travail de l'éducatrice, c'est tu peux aller dehors, il n'y a plus de bottes, tu dois plus t'attendre qu'eux. Et chacun fait sa petite vie. Mais c'est compliqué. Hein. Dans la crèche avec qui j'ai travaillé hier sur Lyon, j'ai dit on va ouvrir le couloir. Je pense que j'ai vu la directrice et la sous-directrice qui ont dit mais pourquoi on l'a invité ? Alors l'équipe semblait très très contente, on est vraiment dit il était temps, mais je pense que pour la directrice ça a été très compliqué. Je reviens le 11 mai, je verrai où ils en sont. Enfin, s'ils me réinvitent d'ailleurs. Mais bon.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, mais c'est vraiment, vous devez vraiment avoir ces préoccupations-là en tant que parent. Ça va pour vous ?
J'aurais juste une question, moi Arnaud. Oui. Quand tu parles de travail corporel chez les parents, je ne sais pas de quoi tu parles.
Ben vous avez des thérapies qui sont maintenant corporelles au niveau sensoriel. Moi, je suis thérapeute quantique et en thérapeute quantique, on travaille sur le corps. C'est-à-dire qu'en thérapie quantique, on dit tant que vous ne passez pas par nettoyer vos fascias intérieurs, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Mais ça serait beaucoup trop long à vous expliquer ici. C'est un travail qui peut se faire assez rapidement, mais il faut aller nettoyer des mémoires dans vos fascias qui vous bloquent des choses et qui vous empêchent d'être totalement neutre et lisse vis-à-vis de vos enfants. Donc ce travail corporel, c'est ça. Mais ça peut être peut-être d'autres choses. Hein. La gestalt, c'est un peu corporel aussi. Hein. Mais c'est passé par là, passé par le corps. Les thérapeutes quantiques. Donc si vous cherchez thérapeute quantique, la méthode PIS, qui est un processus d'abandon émotionnel et corporel. Est-ce que ça va pour vous ? Oui ? Vous allez les manger, c'est ça ? Sinon, vous allez mordre et vous êtes en état de stress.
Un grand merci,
merci à vous.
On va te laisser prendre ton train. Juste...